Bonsoir. Quand une célébrité d'internet se retrouve devant les enquêteurs, Norman Tavo, 12 millions d'abonnés sur YouTube, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol. Depuis 4 ans, les accusations se multipliaient à l'encontre du vidéaste. À suivre dans ce journal, le Conseil national de la refondation lancé par Emmanuel Macron en septembre. Est-ce que ça marche? Le chef de l'État est allé le voir en personne aujourd'hui à Aix-en-Provence. Plus d'éolien, plus de solaire dans le mix énergétique. Un projet de loi débattu depuis aujourd'hui par les députés. Le gouvernement va devoir convaincre les socialistes et les écolos. La propagande du Kremlin avec une vidéo de Vladimir Poutine qui conduit une voiture sur le pont de Crimée, un édifice en partie détruit début octobre par une explosion. Et puis le Brésil écrase la Corée du Sud, victoire 4-1. Les quintuples champions du monde ont été magistraux en première période.
France Inter.
Ascension et chute d'une star d'internet. Le youtubeur aux 12 millions d'abonnés Norman Tavo, plus connu sous le pseudo Norman fait des vidéos, est en garde à vue ce soir pour viol et corruption de mineurs. Le vidéaste qui a goûté au cinéma et à l'humour est visé par une enquête confiée à la brigade des mineurs. Depuis janvier, 6 plaignantes ont été entendues. À ce stade, 2 étaient mineurs au moment des faits. Mais en réalité, Manon Vautier-Chollet, la libération de la parole a eu lieu dès 2018.
Ça commence sur Twitter le 6 août 2018 quand le youtubeur star aux 17 millions d'abonnés, Squeezie, publie un message viral. Il accuse certains youtubeurs de profiter de la vulnérabilité de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Des centaines de témoignages sont alors partagés via le hashtag Balance ton youtubeur, avec déjà des alertes sur Norman, citées plusieurs fois sans pour autant être inquiété par la justice. Squeezie, lui, ne donne aucun nom, mais ne s'affichera plus jamais publiquement avec Norman. 2 ans plus tard, en 2020, et cette fois sur Instagram, la jeune Québécoise Maggie Desmarais accuse Norman, photo à l'appui, de manipulation à des fins sexuelles. Elle parle notamment de photos dénudées et raconte aux médias Urbania.
C'est rapidement devenu assez problématique. Dans ses propos, il était insistant, puis il était de plus en plus demandant. Plus que ça durait, plus que... C'était la manipulation, dans le fond. Ça a duré 9 mois.
Et Maggie assure qu'une trentaine d'autres victimes l'ont contactée après son témoignage. Certaines accusent Norman de viol. 6 d'entre elles, dont Maggie, portent plainte. Et cette fois, la justice se saisit de l'affaire et commence à enquêter en janvier dernier, 3 ans et demi après les premières alertes.
Manon Vautier-Chollet. Et première conséquence après ce placement en garde à vue, le groupe Webedia, qui était lié avec Norman Tavo, annonce suspendre la collaboration. Nicolas Sarkozy, de nouveau devant la justice pour l'affaire dite des écoutes. Il est rejugé avec son avocat historique Thierry Herzog et l'ex-magistrat Gilbert Azibert. L'ex-chef d'État est soupçonné d'avoir soutenu la candidature du magistrat à un poste prestigieux à Monaco en contrepartie d'intervention sur une affaire alors examinée par la Cour de cassation. C'était en 2014. La réponse de l'Église catholique aux nombreux scandales de violences sexuelles. Un tribunal pénal canonique national a été installé aujourd'hui à Paris. Il aura pour fonction notamment de traiter les affaires d'agression sexuelle sur majeurs, mais pas les affaires de pédocriminalité. Un tel dispositif avait été préconisé l'an dernier par le rapport Sauvé. Emmanuel Macron plaide pour la liberté pédagogique. Le chef de l'État en déplacement aujourd'hui à Aix-en-Provence, dans le cadre du Conseil national de la refondation consacré à l'éducation. Le CNR, ce sont donc ces échanges, ces réunions entre citoyens annoncées par le président en septembre pour réfléchir à l'avenir. 1 millier d'établissements scolaires ont déjà pris part au dispositif sur les 12 000 espérés. Simon Le Baron, le déplacement du jour avait donc pour objectif de donner l'impulsion.
Oui, et pour l'image, l'Élysée avait installé dans le CDI du collège un immense panneau logo bleu, blanc, rouge. Le président s'installe devant.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là.
Ce CNR, c'est son bébé et il sait que personne ne défendra à sa place cette nouvelle méthode dont on peine encore à saisir les contours.
J'ai pas vocation à parler beaucoup, je vais surtout écouter, éventuellement répondre s'il y a des questions, mais vous écoutez pour que vous m'expliquiez un peu ce qui est fait.
Pas vocation à parler beaucoup, ceux qui le connaissent savent que c'est plutôt contre nature. Après 3 minutes d'introduction d'ailleurs, ses conseillers nous demandent carrément de couper micros et caméras. Ce conseil de la refondation, nous explique l'un de ses proches, doit être l'inverse du grand débat, l'inverse de cette image du président au centre de tout, capable de palabrer pendant des heures. Alors Emmanuel Macron écoute en effet les professeurs assis autour de la grande table, lui raconter leurs initiatives pédagogiques, les sorties à l'opéra, le manque de moyens aussi. Lui prend des notes, concentré, silencieux, oui, jusqu'à une très courte conclusion pour assurer qu'il est prêt à reprendre toutes les bonnes idées. Aucune annonce, ce n'est pas le but. Il n'y en aura pas non plus jeudi à Poitiers sur la santé. Les premières retombées sont attendues au mieux au printemps, mais pour son CNR, le chef de l'État veut montrer qu'il a tout son temps.
Simon Le Baron. 3 jours après l'adoption du budget 2023 de la Sécurité sociale, la NUPES dépose un recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est notamment l'utilisation massive du 49.3 qui est visée. 84% des dépenses prévues pour 2023 n'ont pas été examinées par les députés, selon l'Alliance de gauche. Voilà qui promet de nouveaux débats agités à l'Assemblée nationale. Un projet de loi sur les énergies renouvelables est arrivé aujourd'hui devant les députés. Y aura-t-il bientôt plus d'éolien, plus de solaire? C'est en tout cas ce que veut le gouvernement. Le renouvelable, pour l'heure, c'est environ 20% de l'énergie qu'on consomme dans l'Hexagone. L'ambition, diviser par 2 les délais de déploiement en limitant les recours possibles et en multipliant les zones d'implantation. La question divise Claire Flochel et les écologistes comptent particulièrement peser.
Et les Verts ont déjà influé sur le projet de loi lors de l'examen au Sénat, puis en commission. Le député Europe Écologie Les Verts, Charles Fournier, chef de file sur ce texte des ENR.
Il y a une majorité qui peut se construire avec les socialistes, avec les écologistes, et ça fait une majorité. La balle est dans le camp du gouvernement. Nous avons fait des propositions, certaines ont été entendues, et il y a eu un dialogue constructif, et il faut le reconnaître, mais il reste des marches à franchir, et nous attendrons les débats dans l'Assemblée nationale.
Et justement, lors de l'ouverture de ces débats cet après-midi, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, reconnaît d'abord le retard de la France, puis tend la main aux oppositions, plutôt destiné à la gauche en réalité.
Je sais qu'ensemble, nous saurons encore améliorer le texte. Et je suis confiante sur le fait que, de gauche à droite dans cet hémicycle, parmi les nombreuses bonnes volontés qui y siègent, nous saurons aussi nous accorder sur l'essentiel.
Mais le gouvernement ne va pas pouvoir attirer toute la gauche, les insoumis sont beaucoup plus indécis, les communistes pro-nucléaires devraient rejeter le texte, comme le député Sébastien Jumel.
Depuis de nombreuses années, la montée en puissance des ENR s'est faite au détriment de l'emploi local, de l'industrie made in France et de cette maîtrise publique que nous attendons.
Contre toute attente, les sénateurs, y compris LR, ont voté à la quasi-unanimité le projet de loi. Cela ne devrait pas être le cas des députés de droite qui ont déposé de nombreux amendements, notamment contre l'éolien.
Claire Flochel, plus de 20 000 personnes hospitalisées à cause du coronavirus en France. La 9e vague de l'épidémie continue sa progression. C'est 2 000 personnes de plus à l'hôpital qu'il y a une semaine selon Santé publique France. Par ailleurs, plus de 1100 patients sont actuellement en réanimation pour cause de Covid. La guerre en Ukraine avec ce qui s'apparente à une opération de communication pour Vladimir Poutine. Le président russe roule en voiture sur le pont de Crimée, cet édifice qui relie la Russie à la péninsule annexée en 2014 par Moscou et qui a été touchée par une violente explosion le 8 octobre dernier. Gaël Joly, la séquence a été publiée cet après-midi sur les réseaux sociaux par le Kremlin.
La vidéo a été publiée par la présidence russe elle-même. Elle dure à peine quelques secondes. On y voit, selon les médias russes, Vladimir Poutine de dos, au volant d'une Mercedes en train de rouler sur le pont de Crimée, très concentré, accompagné par son vice-premier ministre. Poutine demande où en est l'avancée des travaux. Son ministre détaille. La séquence est symbolique. Ce pont avait été inauguré en personne par Vladimir Poutine en 2018, construit en grande pompe après l'annexion de la Crimée. Le viaduc en béton sert aujourd'hui de voie d'accès aux véhicules de l'armée russe pour combattre en Ukraine. Il est toujours en réparation depuis plusieurs semaines après la puissante explosion qui l'a en partie détruite en octobre dernier. Les Russes ont dénoncé un acte terroriste de la part des Ukrainiens, mais Kiev affirme qu'il s'agit d'un incident malheureux. Selon les médias russes, il s'agit du premier déplacement de Vladimir Poutine sur un site touché par l'offensive. Une guerre des images qui intervient alors que les Russes essuient plusieurs revers militaires encore aujourd'hui sur le front de Bakhmout.
Voilà, et ce soir, une grande partie de l'Ukraine est plongée dans le noir après des frappes russes visant les infrastructures énergétiques du pays. Kiev assure qu'une 60aine de missiles ont été détruits en vol par l'armée ukrainienne. Par ailleurs, une attaque au drone ukrainien sur 2 bases aériennes au centre de la Russie ont fait 3 morts selon le Kremlin. Le moment a dû leur sembler une éternité. La Corée du Sud, éliminée du mondial de foot par le Brésil, score final 4-1. Les 4 buts brésiliens ont tous été marqués en première mi-temps. Jérôme Val, les amateurs se sont tout simplement régalés ce soir.
Et en hommage à Pelé, le Brésil nous a offert une leçon de football dans une première période de toute beauté. Chaque but a été un bijou ciselé par les orfèvres de la Seleção. D'abord, Vinicius dès la 7e minute sur une frappe puissante. Neymar, 6 minutes plus tard, qui marque son retour sur un pénalty sans laisser de chance au gardien coréen. Et que dire du 3e but? Cette combinaison à 3 dans la surface, conclue par Richarlison, le joueur de Tottenham, inscrit son 3e but dans la compétition. Et la Seleção n'en avait pas fini avec son festival. Dernier but avant la pause, le centre de Vinicius de l'extérieur du pied droit et la reprise de volée de Lucas Paqueta. 4-0 à la pause, ça en était trop pour une équipe coréenne débordée, trop juste et sans doute émoussée par sa qualification in extremis vendredi face au Portugal. Et même si le but coréen de Paik à la 76e est à l'unisson de la soirée, une magnifique frappe. De son lit d'hôpital à des milliers de kilomètres de là, Pelé a dû savourer cette démonstration. Le Brésil a confirmé une fois de plus que son rêve d'une 6e étoile était devenu une obsession.
Et le Brésil rejoint donc la Croatie en quart de finale. La Croatie qui a battu le Japon au tir au but un peu plus tôt aujourd'hui.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Des nouvelles du ciel, Elodie Calac.
Peu de changements demain. Sur la moitié nord jusqu'au Lyonnais, ce sera gris toute la journée avec en prime quelques gouttes de bruine, parfois quelques flocons vers la Lorraine le matin et des brouillards matinaux possibles sur toutes ces régions. On trouvera quelques éclaircies près de la Manche avec quelques averses. Pour avoir du soleil, il faudra aller vers le sud, mais il faudra composer avec quelques grisailles matinales vers la Garonne et le Roussillon et des nuages d'altitude très nombreux du sud de la Garonne à la Méditerranée le matin. Ils se limiteront à l'est du Rhône l'après-midi. Le matin, les petites gelées seront nombreuses. Il fera souvent moins 3 à 1 degré, un peu plus de l'Aquitaine au sud-est, 2 à 7 et jusqu'à 9 en Corse. L'après-midi, pas plus de 3 degrés à Clermont-Ferrand, 4 à Nancy, Tours et Lyon, 5 à Paris ou à Vannes, 10 degrés à Bordeaux, 12 à Marseille, 14 à Perpignan et 18 à Ajaccio.
Merci Elodie Calac, Météo France.